France Culture. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Le hasard, c'est notre sujet cette semaine. En somme, quand la philosophie joue au dé. Nouvel épisode, le hasard comme clé de la découverte. Il arrive qu'on ait cette chance, à partir d'un événement hasardeux, enfin, c'est ce qu'on croit, de déclencher un processus intérieur, une pensée qui mène vers une découverte scientifique, philosophique ou artistique. Ce hasard est perçu alors comme un déclic scientifique, un point de liaison insoupçonné, une source vive et rare de créativité. Évidemment, la question est de savoir si ce hasard est vraiment un hasard. Quand on raconte que Newton, ayant vu un jour une pomme tomber de son arbre, a vu surgir l'enjeu de la gravité et l'a ensuite théorisé, on ne peut s'empêcher de se dire que des objets qui tombent, pommes ou autres, il y en a beaucoup et tous les jours dans nos vies. Et cela ne relève pas vraiment du hasard. Mais certaines circonstances décisives dans la vie des chercheurs, mais aussi des artistes, paraissent moins banales. Parfois, le hasard semble montrer quelque chose de tout à fait inattendu et de fécond si on sait voir et s'étonner et faire des liens avec d'autres morceaux d'expérience ou de réflexion. Il existe un mot pour désigner ce processus, un mot de plus en plus utilisé en français, même s'il s'agit au départ d'un anglicisme. C'est le mot « sérendipité ». Tiens donc, mais d'où vient-il ce mot? Que raconte exactement le conte oriental à propos de trois princes envoyés sur l'île de Serendip? Bonjour Sarah Troche.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférences en esthétique et philosophie de l'art à l'Université de Lille. Vous avez écrit un livre intitulé « Le hasard comme méthode, figure de l'aléa dans l'art du XXe siècle », livre paru en 2015 aux presses universitaires de Rennes avec une préface de Bernard Sève qui était avec nous dans un des épisodes de cette série cette semaine sur le hasard. Et bonjour Laurent Lotti.
Bonjour.
Oui, vous êtes bien là, pas tout à fait présent dans le studio, mais bien présent avec nous pour discuter, historien des imaginaires et des idées scientifiques et politiques au CNRS. Vous êtes un spécialiste de ce qu'on appelle aujourd'hui la sérendipité et très convaincu de l'importance de l'interdisciplinarité, notion qui lui est corrélée, semble-t-il, et que vous traitez aussi, que vous explorez dans vos travaux. Voici pour commencer l'exemple paradigmatique d'une découverte par le hasard, celle des antibiotiques par Alexander Fleming, c'était en 1928 au Royaume-Uni.
6 ans après la découverte du lysozyme, Fleming, qui était en train d'écrire un article sur les staphylocoques, reprit quelques vieilles cultures dont il enleva le couvercle. Plusieurs géloses étaient contaminées par des moisissures. Cela arrive très souvent et tout autre les aurait jetées. Mais Fleming, qui parlait avec son assistant, se tut soudain et après un instant d'observation dit « Ceci est bizarre. This is funny. » Sur cette gélose, une moisissure avait poussé, mais autour de la moisissure, les colonies de staphylocoques s'étaient dissoutes. Fleming aussitôt préleva un échantillon de la moisissure et la plaça dans un tube de bouillon. Une de ses règles était qu'un savon doit faire bon usage de ses malheurs. À un collègue, il montra la boîte et dit « Regardez bien, ceci est très intéressant. » L'autre répondit avec une indifférence polie « Oui, oui, c'est très intéressant. » En fait, cette boîte est demeurée célèbre, elle est actuellement dans un musée à l'hôpital Sainte-Marie.
C'était le, non pas évidemment Fleming, mais c'était André Mauroy dans l'émission Les Grandes Conférences sur la RTF en 1960 qui raconte donc cette recherche d'Alexander Fleming au début du XXe siècle qui a mené à la découverte des antibiotiques. C'est un peu l'exemple paradigmatique, Sarah Roche. On a vraiment l'impression là que le hasard a joué parce qu'on a laissé traîner vraiment par hasard une boîte dans un laboratoire. C'est l'exemple type, c'est ça, de la découverte par hasard.
Oui, je pense que Laurent Lotti pourrait aussi très bien commenter ça.
Mais il va le faire.
Alors, oui, c'est l'exemple type. Moi, ce qui m'intéresse vraiment ici, c'est Bah, la question de la moisissure, il s'est mis à regarder les moisissures, oui. C'est-à-dire il s'est mis à accorder une importance à ce qui, normalement, aurait dû gêner, qu'on aurait dû en fait jeter. Et tout se joue en fait dans ce déplacement du regard, qui s'étonne. Et l'étonnement va être, l'étonnement et l'importance accordée à ce que d'habitude on ne regarde pas, va mettre en route la réflexion et l'amener en fait dans une nouvelle direction.
J'ai fait exprès de vous interroger au premier parce que vous vous intéressez plus à l'art.
Oui.
Et puis ici dans cette émission, tout le monde essaye aussi de sortir de sa spécialité, ça fait partie du jeu. Et justement, l'étonnement que vous évoquiez, c'est intéressant parce que c'est une notion qui est transversale. Elle est très importante en science, elle est aussi très importante en art, n'est-ce pas ?
Tout à fait. L'étonnement, je dirais en fait la capacité à se rendre disponible à ce qui arrive au moment même du processus de création. C'est-à-dire ne pas être complètement absorbé par le but à atteindre, par ce que l'on cherche, mais être capable d'accueillir tout ce qui va arriver d'imprévisible au moment où l'on peint, au moment où l'on crée, au moment où le pinceau va couler, dévier, accueillir en fait ces moments-là comme des occasions de transformer, d'exploiter en fait les suggestions de la matière qu'on n'avait pas prévues.
Donc, vous vous exprimez avec des mots très intéressants. La recherche, chercher quelque chose. Souvent, on croit que la recherche, ce n'est qu'en science. Mm. Et puis, vous avez parlé donc ces suggestions de la matière. Je vous propose d'y revenir. Mais alors, évidemment, le spécialiste du hasard en science, c'est Laurent Lotti. Et donc, je serais très curieuse d'entendre votre commentaire de cette fameuse expérience d'Alexander Fleming. Laurent Lotti.
Oui, merci. Je vais d'ailleurs prêter ma parole, ma voix à Fleming. Mais avant, juste une petite remarque, c'est que spécialiste des sciences ou spécialiste de l'art, peut-être, mais justement, vous nous avez réunis, et heureusement, autour d'une notion qui est partagée justement par les arts et les sciences. Et Sarah Troche termine son livre par la valorisation de l'idée de dépaysement, de s'écarter de ce qui est connu, d'être surpris par autre chose. Et c'est pour moi une notion très proche, le dépaysement, de la notion de, non pas de interdisciplinarité, mais d'indisciplinarité, s'écarter de tout ce qu'on a appris à l'intérieur d'une discipline.
Vous êtes des poètes ce matin, c'est extraordinaire ce que vous venez de dire. L'indisciplinarité, finalement, est bien plus subversive et bien plus importante que cette chose qu'on appelle maintenant l'interdisciplinarité, qui en fait tout le monde utilise. C'est un peu un mot de code pour parler du fait que les chercheurs se parlent. Mais l'indisciplinarité, c'est beaucoup plus fort. C'est peut-être beaucoup plus gênant au sein des disciplines instituées de la recherche, comme on le voit aujourd'hui et sans doute comme on le voyait hier.
Oui, exactement. Et d'ailleurs, le mot, je croyais avoir inventé le mot, je l'ai analysé dans un texte, mais de façon très amusante, j'ai découvert qu'il avait été inventé auparavant en art plastique.
L'indisciplinarité.
C'est ça. Fleming, c'est magnifique que vous ayez commencé par une archive autour de Fleming. C'est un très grand moment pour faire connaître et la chose et le mot. Ça se passe en 1949.
Ah pardon, c'est pas
c'est
plus tôt.
C'est à la une.
Ah oui, c'est pas plus tôt. Je croyais que c'était
enfin,
un peu plus tôt.
Non. Vous avez raison, c'est plus tôt. Mais le moment que je voudrais mettre en valeur, c'est le moment où Fleming est évoqué à la une du New York Times.
Donc il faut quand même presque 20 ans, vous dites. 1928, il voit des choses. Et c'est seulement après la guerre que les choses se déplient pour lui et bien évidemment pour le grand public, c'est ça ?
C'est parce que, en fait, la sérendipité, même avant que le mot n'existe, il est inventé vers 1748. Bien avant que le mot existe, la chose est pratiquée. Elle est pratiquée de manière ancestrale chez les chasseurs, notamment, on pourra y revenir. Mais en 1949, c'est après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis, après le projet Manhattan notamment probablement, mais aussi du fait de toute l'industrialisation, développe de grands programme de planification de la recherche avec la création de la National Science Foundation. En France, c'est la même chose avec le Centre National de la Recherche Scientifique. Et Fleming réagit à ça. Et ça, c'est en 1949. Oui. C'est la une du New York Times. C'est le jour même de l'indépendance, le lundi 4 juillet. Donc ça devait être important pour les lecteurs. Et le mot serendipity en anglais, apparaît. C'est un grand moment où on fait connaître, disons, ce mot en même temps que la chose. Et je lis juste quelques lignes, je traduis, de l'article qui s'intitule « L'inventeur de la pénicilline prône une recherche libre ». Et voilà les propos de Fleming que je traduis. « Vous pouvez commencer à chercher quelque chose et découvrir finalement tout à fait autre chose. Ce type de recherche ne peut pas être dirigé. Il est possible de planifier certains aspects de la recherche médicale, mais on ne peut pas planifier la recherche fondamentale pure, pas plus qu'on ne peut programmer l'art ou la littérature. Le génie n'est pas programmable. Il revient aux dirigeants de fondations comme celle-ci, c'est la National Science Foundation, de créer une ambiance de travail libre qui permette au génie de s'exprimer pleinement.
Voilà. C'est passionnant. Et donc, Fleming aurait nommé lui-même, de nombreuses années après ce déclic par le hasard qui a permis la découverte des antibiotiques, il aurait quasi théorisé le processus et finalement, il l'aurait généralisé à d'autres, à la recherche en général. Vous avez d'autres exemples, vous-même qui travaillez là-dessus, Laurent Lotti, de recherches scientifiques dans lesquelles le hasard a été décisif?
Alors, en fait, je ne vais pas vous donner tout de suite un exemple, je vais plutôt vous dire qu'il n'y a pas de découverte décisive et peut-être de découverte tout court qui ne soit pas sérendipienne. Et ce n'est pas exactement parce que tout se découvre par hasard, c'est parce que tout se découvre, c'est un grand thème que vous aimez tant, par curiosité, par surprise et par curiosité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de découverte autre que ce qui provient d'un étonnement face à quelque chose qui nous surprend, qui entraîne alors une tentative d'interprétation et une réflexion sur cette surprise et cette interprétation. Donc en fait, pour moi et pour Sylvie Catelin qui a écrit ce magnifique livre intitulé « Sérendipité du conte au concept », toute découverte est sérendipienne.
Sylvie Catelin, qui aurait dû être avec nous, ça n'a pas pu se faire. Je voudrais du coup vous demander, suivant ce que vous venez de dire, essayer de comprendre le processus de la recherche. Au fond, le vrai problème du chercheur, ce serait parfois de ne pas voir ce qui est en dehors de sa route. Ça, c'est grave pour un chercheur, parce que c'est souvent cette disponibilité, même toujours, dites-vous, c'est cette disponibilité qui est la source de sa créativité. Être dans un couloir, pour un chercheur, ce qui arrive presque toujours, une fois qu'on est institué comme chercheur, c'est au fond dangereux pour la recherche.
Oui, exact. Et c'est pour ça que Sylvie Catelin et moi-même avons écrit, par exemple, un article qui s'intitule « Sérendipité et indisciplinarité ». Parce que c'est corrélé, en fait. Il faut être capable, alors même, si vous voulez, la notion d'indisciplinarité est une notion paradoxale. C'est-à-dire que les disciplines sont absolument fondamentales pour la transmission et pour la recherche en général. Mais, et c'est pour ça que je préfère l'adjectif indisciplinaire à indiscipliné. Parce qu'une chose, il est facile de critiquer les disciplines, mais finalement, pour être indisciplinaire, il faut beaucoup de savoir disciplinaire, il faut beaucoup d'autodiscipline, et puis il faut être capable, au moment où on repère quelque chose de surprenant, de s'écarter de tout ce qu'on a appris à travers des disciplines ou des sous-disciplines, et de sortir du couloir, comme vous le dites.
Qu'en pensez-vous, Sarah Troche? Pour l'artiste aussi, il faut sortir d'une certaine façon d'un couloir qui risque, dans sa manière de créer, de se dessiner. Il y aurait quelque chose comme une instance de discipline au sein de l'art. Emmanuel Kant disait qu'il fallait faire attention, la discipline rogne les ailes du génie. Mais pour lui, c'était pas forcément négatif, parce que le génie pur ne crée pas tout seul du beau. Il faut une part de discipline. Mais diriez-vous qu'il faut craindre quand même trop de discipline en art?
Est-ce qu'il faut craindre trop de discipline en art? Oui, certainement, si la discipline nous enferme dans des schèmes répétitifs. Mais il n'y a pas que la discipline et les règles. Je pense qu'il y a aussi le style dans lequel l'artiste va peut-être lui-même s'enfermer, c'est-à-dire une fois qu'il a trouvé son style ou sa marque de fabrique, l'exploiter et se, disons... être toujours un petit peu sur les mêmes gestes, les mêmes procédés, etc. Donc le couloir, il est là. Je pense qu'il est autant en amont dans les règles et les disciplines que dans les habitudes que la pratique artistique, aussi singulière soit-elle, va elle-même produire. Et moi, les artistes sur lesquels j'ai travaillé, qui ont choisi volontairement d'introduire une part de hasard dans le processus même de l'œuvre, sont hantés par cette peur de l'habitude, de la répétition, du goût. Oui. Hein, Marcel Duchamp, notamment, hein, il avait une manière hein, de produire des œuvres qui sont toujours extrêmement réfléchies, extrêmement singulières, mais qu'il produisait. Enfin, ce sont des occurrences uniques. Les ready-made de Marcel Duchamp, il y en a très peu. Faut pas en faire trop, hein, disait-il, parce que si on en fait trop, même si l'indifférence a présidé au choix du ready-made, au bout d'un moment, on va y prendre goût. Et à partir du moment où on y prend goût, eh bien, on se répète soi-même. Et on s'enferme dans ses... On produit ses propres schèmes et on s'enferme dans ses propres schèmes.
Alors, une des difficultés que nous avons ce matin, c'est de ne pas tout faire porter au hasard. Le pas de côté que vous évoquez comme nécessaire, tous les deux, vous en parlez, du pas de côté et de la disponibilité de l'artiste à des choses qui se situent en dehors de son couloir, et c'est la même chose pour le chercheur scientifique. Est-ce que c'est toujours du hasard? Ça, c'est une des difficultés que nous avons ce matin. Alors, parfois, ça l'est. Il y a même, là, à nouveau, une anecdote paradigmatique, comme Fleming et son expérience, c'est un paradigme pour réfléchir au hasard en science. Il y a l'équivalent en peinture. Il s'agit d'une anecdote racontée par Pline l'Ancien qui évoque le peintre Protogène. Écoutez un extrait.
Il y a dans ce tableau un chien dont l'exécution est objet de curiosité, car cette effigie doit aussi au hasard, et pour une part égale, sa réalisation. L'artiste trouvait que chez ce chien, il n'arrivait pas à rendre la bave de l'animal haletant, alors que tous les autres détails le satisfaisaient, ce qui était fort difficile. Ce qui lui déplaisait, c'était l'art même. Il ne pouvait en atténuer l'effet, bien qu'il lui semblât excessif et trop éloigné de la vérité. La bave n'avait pas l'air de sortir de la gueule, elle avait l'air peinte. L'esprit inquiet et tourmenté, voulant obtenir dans sa peinture le vrai et non le vraisemblable, il avait effacé plusieurs fois, il avait changé de pinceau, mais rien ne le contentait. Finalement, il se mit en colère contre cet art trop visible et lança son éponge sur l'endroit du tableau qui ne lui plaisait pas. Or, l'éponge remplaça les couleurs effacées de la façon qu'il souhaitait. Et dans ce tableau, la chance reproduisit la nature. On dit qu'à son exemple, Néalkès obtint un succès semblable pour rendre la bave d'un cheval. Il lança son éponge sur le tableau de la même manière, alors qu'il peignait un homme retenant l'animal en claquant de la langue. Ainsi, Protogène montra-t-il jusqu'aux effets de la chance.
Ce texte, lu par Nicolas Berger, notre réalisateur, est extrait de Pline l'Ancien. Il date donc du 1er siècle après notre ère. Ce peintre protogène est-il connu des artistes? En tout cas, je crois qu'il est connu des chercheurs que vous êtes, car vous êtes aussi une chercheuse. Vous-même, peut-être ayant besoin de sérendipité, vous-même, vous nous en parlerez. Sarah Roche, c'est ça? Pardon.
Proche, pardon.
C'est important pour les artistes.
Alors, c'est une anecdote effectivement paradigmatique qui circule d'ailleurs sous différentes versions dans l'Antiquité, ce qui est bien la preuve qu'en fait, ce qui compte ici, ce n'est pas tant la vérité historique que l'exemplarité de ce geste. Elle est connue, oui, des chercheurs qui travaillent sur l'art, qui s'intéressent au processus artistique. Du côté des artistes, non, je l'ai pas vu citer. Mais il y a des gestes, je vais les évoquer, hein, d'artistes qui rejouent exactement ce qui est décrit ici dans cette anecdote. Alors pourquoi est-ce qu'elle est paradigmatique ? Eh bien en fait, on a ici, chaque phrase est vraiment éloquente, on a un artiste, un protogène, qui n'arrive pas à produire l'effet souhaité, hein, le sujet qu'il représente, c'est un chien et il voudrait en fait produire de manière forte, de manière vraie, la bave qui sort de la gueule du chien. Et ce qui le gêne dans ce qu'il est en train de faire, c'est la présence de la technique, c'est l'art même, c'est-à-dire que la bave qu'il imite a l'air peinte. C'est le trop d'art, c'est le trop de technique qui fait qu'il est en fait insatisfait. Et donc, il essaye, il réessaye, il change de pinceau, etc. Et il va, au sens littéral, finir par jeter l'éponge. Il est à bout, en fait, de recherche, de volonté. Et c'est ce moment où la volonté et la recherche patiente finalement atteint ses limites, qu'il va produire accidentellement hein, ce qu'il cherchait à faire volontairement. Donc on a un exemple parfait de finalité accidentelle, c'est-à-dire j'atteins mon but à l'occasion d'autre chose, par accident. Hein, finalité accidentelle qui, chez Aristote, hein, définit vraiment le hasard. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que ce qu'il produit finalement en jetant l'éponge, c'est une tâche. C'est quelque chose, finalement, c'est un geste très impulsif hein, qui va produire des marques accidentelles. Or, ces marques accidentelles, on ne peut pas les reproduire à l'identique. Elles produisent forcément quelque chose d'absolument singulier, d'absolument unique.
Mais c'est de là que vient l'expression « jeter l'éponge » ?
Je ne sais pas. Peut-être, ce serait très beau.
Avis aux auditeurs.
Je ne sais pas.
Peut-être qu'ils nous révéleront si c'est la source de cette expression ou non.
Et
oui, je vous en prie.
Alors, je disais juste tout à l'heure, en fait, cette anecdote, elle n'est pas citée par les artistes, mais certains refont exactement ce geste. Et je pensais ici au peintre Francis Bacon,
oui.
Au XXe siècle, donc là, on est vraiment très très loin de Pline l'Ancien, et qui utilisait le hasard de la même manière. En fait, il raconte hein, dans ses entretiens avec David Sylvester que lorsqu'il n'arrive pas à atteindre la figure qu'il cherche, il cherche quelque chose à représenter les corps de manière vive. Lorsqu'il est à bout, il prend toujours le risque de détruire sa toile en projetant de la peinture, en jetant l'éponge. Et il prend ce risque hein, pour voir peut-être émerger autre chose qu'il n'avait pas prévu. Voilà.
Puis je ne sais pas si l'exemple vous conviendra, mais c'est vrai que les peintres qui fonctionnent par tâche de couleur, et on pense quand même à Jackson Pollock, forcément, il y a comme un jet qui sollicite immédiatement et explicitement le hasard.
Oui. Alors, c'est une grande question de savoir quelle est la part de hasard et de maîtrise dans cette technique du dripping de Jackson Pollock. C'est peut-être un petit peu différent.
Pourquoi,
Alors, parce que, en fait, là, la question de la coulure, de la giclure, de ce geste hein, du dripping qui consiste à laisser couler la peinture, la projeter. Hein, Jackson Pollock mettait la toile, en fait, au sol hein, et projetait de la peinture. En fait, la trace accidentelle est recherchée pour elle-même. C'est un certain style, un certain effet, une certaine énergie hein, que l'on va rechercher à travers ce geste qui consiste à projeter de la peinture, mais selon un certain rythme, d'une certaine manière. Hein, Jackson Pollock, on le voit dans certains documents, tourne autour de la toile, danse quasiment autour de la toile. Donc ce qu'on recherche, c'est finalement un certain effet. Le hasard ici est du côté du résultat et non pas introduit dans le processus de création comme une manière de se mettre en situation d'imprévisibilité, une manière de ne pas savoir ce qui va sortir. Pour moi, c'est une différence en fait assez essentielle que j'ai essayé de mettre en place dans mon livre, hein, en distinguant ce qui relève d'une esthétique de l'accident, où la trace de l'accident est recherchée comme telle, d'un hasard comme méthode, c'est-à-dire le hasard en fait est intégré au processus de création et va au final produire des œuvres qui parfois ont l'air très concertées. C'est-à-dire l'importance du hasard, c'est ce qui se passe au moment.
D'autant qu'à la fin, toujours l'artiste choisit.
Toujours l'artiste
choisit. Savoir si ça lui plaît, est-ce que le hasard ou la part de hasard lui a envoyé.
Voilà.
Ce qui est troublant, c'est que souvent, pour ceux qui contemplent la peinture, l'idée qu'il y ait du hasard et une part peut-être importante de hasard dans la peinture, ça, c'est comme si ça dévaluait le travail de l'artiste. Nous avons une tendance spontanée à ne pas trop aimer cette considération.
Tout à fait.
Vous comprenez cela ?
Ah bah oui, bien sûr, parce que la représentation commune qu'on se fait de l'artiste au travail, c'est l'artiste qui est conscient de chaque geste qu'il fait. Et surtout, on a aussi cette approche classique de l'œuvre d'art qui voudrait que dans une œuvre finie, parfaite, chaque élément soit exactement à sa place, qu'on ne puisse rien changer sans modifier l'ensemble, que tout, en fait, se pense comme quelque chose de nécessaire. Hein. Et les artistes souvent eux-mêmes hein, parlent de cette nécessité. Kandinsky évoquait une nécessité intérieure. Il ne peut pas faire autre chose que ça au moment où il le fait. Il est poussé par l'idée que c'est cette couleur et pas une autre. Et donc le hasard prend à rebours cette conception commune de la création.
Et puis ça va contre l'idée de vocation ou nécessité intérieure de l'artiste. Tout le monde se dit, finalement, Jackson Pollock, je peux faire un Pollock, moi aussi, en balançant de la peinture sur une toile.
Voilà, parce que c'est vrai que les artistes qui vont utiliser le hasard recourent à des gestes qui sont en apparence simples. Alors je dis en apparence parce que pour Jackson Pollock, il suffit d'essayer de le faire pour voir que ça donne pas un Jackson Pollock qui a effectivement il est pris dans c'est une espèce de mouvement concerté, il regarde ce qu'il fait, en fait il y a une espèce d'interaction constante.
Le dribbling n'est pas totalement hasardeux.
Ah non. C'est ce que vous... Non. En revanche, moi les artistes sur lesquels j'ai travaillé, Marcel Duchamp, John Cage, François Morlet, recourent à des procédés simplissimes, c'est-à-dire ils vont tirer des notes au hasard dans un chapeau. Ils vont jeter les dés, ils vont remplir des toiles avec deux couleurs, bleu ou rouge, en utilisant les chiffres pairs ou impairs d'un annuaire de téléphone. Ça, c'est François Morlet. Et donc, il nous donne vraiment la règle du jeu. Et pour le coup, on peut tout à fait se l'approprier et le refaire.
Alors, on va prendre l'exemple de Max Ernst, peintre du XXe siècle. Artiste, plasticien, peut-on dire au sens peut-être large. Écoutez cet extrait il a écrit plusieurs choses. Là, il s'agit d'un texte qui s'appelle Au-delà de la peinture. C'est publié en 1937. Écoutez.
Le 10 août 1925, une insupportable obsession visuelle me fit découvrir les moyens techniques qui m'ont permis une très large mise en pratique de la leçon de Léonard. Partant d'un souvenir d'enfance au cours duquel un panneau de faux acajou situé en face de mon lit avait joué le rôle de provocateur optique d'une vision de demi-sommeil, et me trouvant, par un temps de pluie, dans une auberge au bord de la mer, je fus frappé par l'obsession qu'exerçait sur mon regard irrité le plancher, dont 1000 lavages avaient accentué les rainures. Je me décidai alors à interroger le symbolisme de cette obsession, et pour venir en aide à mes facultés méditatives et hallucinatoires, je tirai des planches une série de dessins, en posant sur elles au hasard des feuilles de papier que j'entrepris de frotter à la mine de plomb. En regardant attentivement les dessins ainsi obtenus, les parties sombres et les autres de douce pénombre, je fus surpris de l'intensification subite de mes facultés visionnaires et de la succession hallucinante d'images contradictoires, se superposant les unes aux autres avec la persistance et la rapidité qui sont le propre des souvenirs amoureux.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Nous parlons du hasard toute la semaine, et aujourd'hui du hasard dans la découverte scientifique ou artistique. Vous venez d'entendre un extrait de Max Ernst, le peintre plasticien qui évoque une expérience de hasard. Je la trouve problématique, Sarah Troche, parce que quand même c'est une obsession au départ. Qu'il invoque des rainures sur un plancher. L'obsession, qui certes est liée à une interaction avec quelque chose, c'est pas tout à fait la même chose, me semble-t-il, que le pur hasard. Est-ce que je me trompe ?
Alors, on pourrait effectivement se poser la question de quelle est la part du hasard dans tout ça. On est du côté de l'obsession, on est du côté d'une forme de révélation. Alors, il s'agit d'une anecdote rapportée par un artiste qui vaut pour sa valeur emblématique. Tout est important dans la description de ce passage. Hein. Il se trouve désœuvré dans une auberge au bord de la mer, dit-il, par un temps de pluie. Donc, il faut imaginer un moment vraiment d'ennui, de désœuvrement. Et on a ici, en fait, la description d'une forme, je crois, de sérendipité. Laurent Lotti pourra dire s'il est d'accord avec ça. Étant comme ça désœuvré, son regard est soudainement accroché par les rainures du parquet. Et ce qui l'étonne, c'est pas tant les formes qu'il pourrait deviner à même le parquet, que ce qui se déclenche en lui. Tout d'un coup, il est obsédé par ces rainures. Mais il ne sait pas ce qu'il obsède précisément. Mais il est comme happé par ce parquet. Et on passe immédiatement de ce qui pourrait être considéré comme un fait un peu anecdotique à l'exploitation, la réflexion et le début d'une méthode, puisque Max Ernst, pour comprendre ce qui se passe en lui et pour comprendre pourquoi son regard se trouve comme ça happé par le sol, va tirer des dessins à partir des linéaments du parquet. Donc très très simplement, hein, ça c'est là encore un geste tout bête que on a peut-être tous fait quand on était enfant. Il met des feuilles par terre et à l'aide d'une mine de plomb, il vient frotter pour faire ressortir les moindres linéaments. Et donc il transforme ce que l'on ne regarde d'habitude pas. On va pas regarder le sol normalement le parquet, les fissures, on les regarde pas. Il les transforme en dessin. Puisque apparaissent sur ces feuilles des dessins extrêmement précis. Ça lui permet d'intensifier ce qui se produit en lui. Et donc c'est le début en fait de la technique du frottage qui va selon lui permettre de provoquer en lui des images, des désirs inconscients, des rapprochements soudains qui sont suscités par ces linéaments accidentels. Et il va ensuite, donc à partir de ce qu'il se voit en lui, produire une image.
Et il dit que c'est un souvenir d'enfance. C'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher de se dire que c'est un clin d'œil à Freud, et
oui,
qui en 1910, c'est-à-dire quand même 27 ans avant ce texte, a écrit un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci. Mm-hmm. Cela dit, encore une fois, les souvenirs d'enfance, ça c'est quand même nous qui les construisons. J'ai du mal à y voir du pur hasard. C'est ce moment subjectif qui s'arrête sur le plancher. Bon. Mmh. Mais peut-être que c'est la même chose en science, Laurent Lotti, au sens où c'est quand même l'obsession sur un sujet des chercheurs scientifiques qui sont obsédés. Donc c'est souvent ça, plus que le vrai hasard, qui leur fait découvrir des choses qui ont un rapport avec leur sujet, qui leur semblent être du hasard, mais le fait qu'ils s'y intéressent ne l'est pas du tout. Vous êtes d'accord, Laurent Lotti, qu'il y a un problème à toujours faire porter la chose au hasard, alors que c'est une subjectivité pleine de quêtes qui relève des choses étonnantes?
Je suis tellement d'accord que je crois qu'en fait, il n'y a pas du tout de hasard dans la sérendipité. Et pas dans ce qui est le plus important, disons, dans les vraies découvertes en science ou en art. Je reviens sur la formule « jeter l'éponge ». C'est en rapport avec ce que vous venez de me demander, ce qui vient d'être évoqué. Donc, en fait, ça vient de la boxe, hein, si je me trompe pas. Et en fait, j'ai cherché ça hier parce que je lisais
le texte
de Sarah Troche, et j'avais envie, moi aussi, d'inventer, mais souvent, quand on croit inventer, on invente en même temps ce que d'autres ont inventé. Donc, la formule « jeter l'éponge, abandonner ». En fait, l'entraîneur qui utilise l'éponge pour essuyer le visage du boxeur, la boxe aussi, il y en a, qui est plein de sang. Bon. Et puis, au moment où l'entraîneur estime que son boxeur n'en peut plus, eh bien, il jette l'éponge par terre. Hein. C'est un signe pour dire qu'il abandonne. Et en fait, le ou la scientifique, et puis sûrement l'artiste aussi, en fait, me paraissent très tenaces, comme les boxeurs d'ailleurs, hein, mais ils abandonnent quelque chose, et ils abandonnent leurs certitudes ou leurs habitudes pour découvrir quelque chose. Et il me semble, alors il y a peut-être des nuances, des différences entre l'artiste et le savant ou la savante, c'est que l'artiste a besoin, je crois, d'abandonner sa maîtrise, son contrôle.
Oui.
Mais à Sarah Troche de me dire ce qu'elle en pense, hein, et d'être peut-être, ce serait ça une nuance, surpris par lui-même, hein, ou surpris par elle-même. Par exemple, comme quand Kandinsky est surpris par sa propre toile qu'il voit sous un regard différent, avec une lumière différente, hein, et puis progressivement il va vers ce qu'on a la découverte, l'invention de l'art abstrait. Et c'est en rapport, tout ça est très fortement en rapport avec ce qu'on appelle aujourd'hui, mais avant ça prenait d'autres formes, l'inconscient, hein, ou l'inconscience. Et le scientifique a peut-être plus besoin d'abord, non pas d'être surpris par lui-même, mais d'être surpris par un phénomène extérieur, mais en réalité les exemples que donne Sarah Troche ou vous-même, hein, reviennent un peu au même aussi que ce que je dis pour les scientifiques. Et le scientifique a ensuite besoin, il y a une question de réflexivité très importante là-dedans, d'être surpris par un phénomène extérieur, mais aussi d'être surpris par sa propre surprise, ce qui l'amène à ne pas lâcher la chose, à être très tenace, à ne pas abandonner, à ne pas jeter l'éponge, mais au contraire, à la saisir, à découvrir qu'il a été surpris par quelque chose qui va l'intéresser pour tout le savoir qu'il essaie de développer depuis longtemps en art ou en science.
Alors, c'est très beau ce que vous dites, surprise. Tout à l'heure, on a parlé d'étonnement, surprise de ce qu'on a fait soi-même, de ce qu'on a engendré soi-même. Mais encore une fois, la question se pose de savoir si ce n'est pas justement, ce sont des processus subjectifs, même l'inconscient, il y a quelqu'un qui en est qui le porte en lui, l'inconscient. Peut-être le hasard, là, est-il un peu abusivement utilisé ou nommé. Alors ceci nous renvoie au mot même sérendipité, car je crois que vous l'avez montré dans vos travaux, Laurent Lotti. Au départ, le mot, on va maintenant faire la genèse de ce mot, serendipity, c'est un mot anglais qui est utilisé par un certain Horace Walpole. J'aimerais que vous m'expliquiez qui c'est, il vit au 18e. Au départ, la notion de hasard était clairement là, et puis, dans l'usage de ce mot, dans les décennies et les siècles qui suivent, semble-t-il, c'est moins là. Alors, c'est ce problème que j'aimerais qu'on analyse. Qui était Horace Walpole et qu'a-t-il écrit, Laurent Lotti?
Merci. Alors, je commence par Walpole, mais après je remonterai à des contes ancestraux et à une activité de chasse humaine et même animale auparavant. Walpole, c'est celui qui invente le mot de serendipity, hein, en 1754 dans une lettre, hein, qui reste pendant très longtemps obscure, mais qui a été découverte bien après au 19e siècle, enfin on peut dire reprise, par des bibliophiles qui sont tellement soucieux de chiner, de trouver la perle, hein, quand ils cherchent des livres. Les bibliophiles ont un très grand savoir sur les livres et ils font des découvertes, hein, au marché aux puces, par exemple, aujourd'hui. Bon. Et dans une lettre, Walpole, en 1754, invente le terme de serendipity. il a lu auparavant. Non, pardon, je réponds d'abord plus précisément à une question d'ordre biographique, mais c'est très important. Walpole est le fils de ce qu'on appellerait aujourd'hui le premier ministre d'Angleterre. Donc c'est quelqu'un dont le père, disons, est très puissant. C'est l'homme le plus puissant de son temps, peut-être, dans son pays, qui a un immense savoir et qui souhaite s'écarter de la voie de son père, disons. C'est lui qui inventera plus tard ce qu'on appelle le roman gothique.
Donc lui-même est homme politique et écrivain, c'est ça ?
Il cherche surtout à être écrivain. D'accord. Et c'est un peu un modèle avant la lettre du dandy. Mais son père est un homme politique et il est très au courant des rapports entre savants et politiques, disons. Mmh. Et voilà que Walpole, donc, passionné par des objets de curiosité, par l'art, a lu un texte qui date d'une vingtaine d'années auparavant, du Chevalier de Mailly, qui a raconté l'histoire des trois princes de Serendip.
Alors, on y vient, il faut vous nous expliquer ça. C'est un conte oriental qui date de quand ?
C'est très difficile de dire la date. Disons que arrive à Venise en 1557 un texte qui s'intitule Voyage et aventure des trois princes de Serendip, mais c'est en italien.
Oui.
Et ce qui arrive à Venise, pardon, je m'exprimais mal, ce qui arrive à Venise, qui est un pôle majeur qui brasse toutes les cultures à l'époque et de toute la Méditerranée, arrivent des contes transformés, enfin, des contes oraux, des récits oraux, qui sont millénaires, en fait, et qui, depuis l'hébreu, l'arabe, le persan, depuis des siècles et des siècles, véhiculent une petite histoire, l'histoire de chasseurs qui expriment leur extrême sagacité en observant des traces sur le sol et en interprétant ces traces et en arrivant à découvrir à partir d'une petite trace que des personnes non savantes ne seraient pas capables d'interpréter qu'il s'agit de tel animal, qu'il a peut-être tel âge, qu'il est peut-être, c'est peut-être un mâle, une femelle, il s'agit de chameaux, souvent dans cette histoire, que le chameau est boiteux ou borgne. Et ces traces sont ce qui surgit, et qui n'était pas prévu, mais comme toute chose dans la vie, jamais rien n'est prévu, c'était l'objet d'une de vos émissions, et comment faire face à l'imprévu. Et comment faire face à l'imprévu, qui n'est pas en lui-même un hasard, mais c'est la rencontre subjective entre une personne et ce qui surgit devant elle qui fait qu'il faut se débrouiller avec. Mm-hmm. Et on peut s'en débrouiller avec les probabilités, c'est aussi le sujet de vos émissions de la série, ou on peut s'en débrouiller avec la sérendipité.
Alors, pardon, je voudrais qu'on revienne au conte. C'est gentil de rappeler tout ce qu'on a fait. C'est charmant. Et merci de le faire. Mais là, je voudrais quand même qu'on revienne au conte. Donc, il s'agit d'un conte très ancien. Oriental, c'est ce qu'on dit, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Si vous avez une source plus précise, je serais ravie. En tout cas, ce conte arrive à Venise et a été traduit en italien au XVIe siècle. Et il raconte l'histoire de trois princes sur une île qui s'appelle Serendip, et qui, en fait, si je crois savoir que c'est l'île de Ceylan, appelée comme ça désormais par nous. Et là, ils découvrent des traces d'animaux, tout un tas de choses, et ils aident quelqu'un, un chamelier qui a perdu son chameau, grâce à des signes qu'il faut encore savoir interpréter, où est ce chameau. Mais en quoi cela a-t-il à voir avec le hasard ? Puisque, je vais toute l'histoire, ce texte qui a été lu par ce Walpole au XVIIIe siècle lui fait dire que c'est la découverte de quelque chose par le hasard et la sagacité. Mais ce n'est que la sagacité, en vérité. Il n'y a pas beaucoup de hasard dans cette histoire.
Parfaitement d'accord. La définition de Walpole, c'est que c'est une découverte de quelque chose qu'on ne découvrait pas, ce qui est d'ailleurs ce qui est d'ailleurs une tautologie. Si on cherchait quelque chose, si on sait déjà ce qu'on cherche, on a déjà trouvé à l'avance. Mais dit-il, par hasard et sagacité. Or, en fait, il s'agit de sagacité. Il s'agit pas de hasard, sinon dans le fait qu'on est sagace face à ce qui est devant soi. L'explication, à mon avis, de cette allusion au hasard tient au fait qu'il s'agit en fait d'une réaction au développement, au même moment, dans les années surtout 1720, 1750, 60. C'est un très grand moment dans l'histoire de la culture, au sens large du terme, scientifique, artistique, religieuse en fait, hein, un très grand moment, et philosophique, un très grand moment du développement du déterminisme.
Oui.
C'est un moment où les philosophes, d'une certaine manière les croyants eux-mêmes, ou les croyants philosophes, disons, prennent acte de manière presque définitive, hein, que tout est cause et effet, que tout est déterminé, qu'il n'y a pas de libre arbitre, qu'il n'y a pas de choses qui arrivent par hasard, que tout est cause et effet. Mm-hmm. Dans ce cadre-là, Walpole, qui connaît tout ça, qui sait tout ça, hein, réagit avant la lettre, comme on appelle ça en littérature, avec une critique sur le caractère anachronique de ça, une sorte de pré-romantisme. Il réagit à ce déterminisme et aussi au rapport de plus en plus puissant entre savant et politique, mm-hmm, en revendiquant le désir de la littérature, des contes de fées, de l'étrange, du fantastique, c'est ce qu'il écrira après dans ses contes gothiques. Et il revendique, enfin, il évoque le hasard comme plus tard, en fait, comme aujourd'hui, les scientifiques évoqueront la sérendipité qu'on ne cesse d'attribuer au hasard, alors qu'il n'y a pas de hasard dans l'affaire, mm-hmm, pour revendiquer leur liberté.
Ah, c'est en fait le mot hasard, mais ça on l'a déjà vu dans la série précisément que nous venons de faire. Souvent le hasard est le mot qu'on emploie pour dire la créativité humaine, la liberté, l'invention, ce qui n'est pas déterminé. C'est du coup un usage un petit peu décalé par rapport au sens propre du mot. Et donc si j'ai bien compris le processus, le mot serendipity en anglais va être utilisé à partir des années 1920-1930 dans les sciences. On le doit notamment, paraît-il, à un physiologiste américain, Walter Bradford Cannon. Mais déjà en sciences, déjà au 19e siècle, on parlait de hasard, peut-être pour dire exactement ce que vous venez de dire. Louis Pasteur disait, et c'est cité par Madame Catelin, qui malheureusement n'a pas pu être des nôtres aujourd'hui, dans son livre magnifique que les auditeurs peuvent trouver sur notre site, « Dans les champs de l'observation, le hasard ne favorise que les esprits préparés ». On voit bien qu'au moment même où il l'invoque, Pasteur, il veut dire qu'il y a quand même une préparation, que ce qui est important, c'est l'attitude subjective, comme vous l'avez dit, de la surprise, de la disponibilité et de la liberté. Donc, serendipity, on a peut-être tort d'y voir la question du hasard au sens propre. C'est la question de la liberté, de l'inattendu, de la liberté.
Pour aujourd'hui, hein, si le mot devient important, hein, s'il est entré dans les dictionnaires, c'est parce que les scientifiques, dès la pré-seconde guerre mondiale, en particulier avec Fleming, enfin au moment de Fleming, encore plus aujourd'hui, et même plus seulement dans les sciences de la nature, mais aussi dans les sciences humaines, sont dans un système institutionnel tel que la science est censée être, vit dans un régime de programmation. Mmh. Tout doit être programmé. On doit quasiment. Il faut trouver des financements en disant déjà ce qu'on va trouver. Et des gens comme Fleming, des gens comme Walpole, des gens comme les chasseurs ancestraux, peut-être d'avant même l'écriture, savent que on ne sait pas ce qu'on va trouver et qu'il faut simplement être attentif à ce qui va nous arriver. Donc c'est une. En fait, le hasard est un mot écran, hein, comme le dit Sylvie Catelin. Mais je dirais que c'est aussi un mot action, c'est-à-dire que c'est un leurre, hein, il cache le fait qu'il y a une revendication d'une autre nature, hein, et c'est une tentative d'agir pour revendiquer, chez les scientifiques en tout cas, la liberté dont ils sentent qu'elle leur est retirée.
Entendu.
Les savants ont besoin de temps.
Oui. À distance, c'est difficile de savoir quand vous avez terminé. Je suis navrée si je coupe parfois un peu, mais c'est plus difficile qu'en studio. Pardonnez-moi, Laurent Lotti. Je voudrais aussi, on arrive presque à la fin de l'émission, je voudrais faire réagir à tout ce que vous avez dit, Sarah Troche. Sarah Troche, la sérendipité, qui n'est donc pas exactement l'usage du hasard, mais l'usage de la sensibilité à l'inattendu, dirais-je, en science, comme vient nous l'expliquer Laurent Lotti. Est-ce que c'est un mot utilisé en histoire de l'art ou dans la réflexion sur la peinture? Est-ce que le mot lui-même est important ou non? Vous préférez, vous travaillez vraiment sur des expériences de hasard en esthétique et ce mot anglais serendipity, maintenant francisé souvent, c'est pas votre affaire en réalité.
Alors, effectivement, c'est un mot qui n'est pas tellement utilisé par les artistes. Contrairement au mot hasard, qui au XXe siècle est presque une tarte à la crème, on le trouve absolument partout. Il sera tantôt du côté de l'accident, tantôt du côté de l'improvisation, tantôt censé être synonyme d'inspiration. Enfin, voilà, le terme hasard est employé à tort et à travers et pour désigner en fait des gestes et des processus très différents du côté des arts. Oui. Le terme sérendipité, pas tellement. Mais moi, j'y vois quand même des liens avec ce qu'on évoquait, cette attitude de l'artiste qui doit se rendre disponible, qui doit entretenir sa curiosité. Chez André Breton, dans le surréalisme, c'est vraiment ça. Hein. Il y avait l'histoire de la chasse là qui est vraiment donc à l'origine du terme sérendipité. André Breton dit qu'il doit se mettre lui-même dans la position du guetteur. Il est à l'affût des signes, des pétrifiantes coïncidences hein, dans Nadja, de tout ce qui surgit à même le quotidien, qui n'a pas été prévu et qui pourtant fait sens et qui le trouble. Hein, dans cette capacité, tout d'un coup, le quotidien me fait signe, m'envoie quelque chose qui me trouble et je dois être réceptif en fait à toutes ces coïncidences qui surgissent dans la vie quotidienne au coin de la rue.
Jamais par hasard, ni rencontre, ni départ. Tu es maître à bord, ne l'oublie pas, quoi qu'il advienne, rien n'arrive jamais par hasard. Le printemps viendra toujours. Prends son temps, mais c'est à toi d'ouvrir la fenêtre. C'est à toi d'ouvrir la porte au printemps, à toi de saisir la chance offerte. À toi de saisir la clé des champs, la clé des fleurs et des rêves. À toi de faire la cour au printemps, la cour à ta jeunesse. Et l'hiver viendra aussi en son temps, à toi de savoir que le temps presse. Quand viendront la neige et les cheveux blancs, à toi d'avoir tenu des promesses.
Rien n'arrive par hasard, c'est une chanson de Nicole Louvier qui était aussi une grande poétesse et une chanteuse, comme vous voyez. Je vous remercie beaucoup tous les deux, Sarah Troche, Laurent Lotti, de nous avoir parlé du hasard dans la découverte, de ce mot un peu troublant, serendipity en anglais, serendipité en français désormais. Qu'est-ce que ça voulait dire? Eh bien, je crois que vous nous avez beaucoup, beaucoup éclairé. Je vous propose maintenant d'écouter la chronique de Nassim El Kabli. Cette semaine, il se demande comment maîtriser l'art de la punchline avec Quintilien, philosophe et pédagogue latin du 1er siècle de notre ère.
Le fil philo.
Imaginez, vous sortez d'une discussion un peu tendue et d'un seul coup vous vient la phrase que vous auriez dû dire mais que vous n'avez pas dite. Mais c'est ça que j'aurais dû lui répondre. Hélas, c'est trop tard. Alors vous ruminez avec frustration l'occasion ratée. la logique de la conversation impose la réactivité, le sens de la répartie. Mais nous ne sommes pas toujours en phase avec la situation, tout particulièrement quand elle est conflictuelle. Mais rassurez-vous, il existe un art de la formule bien sentie, de la réplique qui fait mouche, bref, de ce que l'on appelle aujourd'hui une punchline. Cet art de la punchline est même très ancien et remonte à l'Antiquité. Les philosophes antiques appelaient cela une sententia, une phrase brève, nerveuse, ayant l'allure d'une évidence incontestable. Parmi ces philosophes, il y a Aristote, Sénèque, mais aussi et peut-être surtout Quintilien, qui a théorisé dans son ouvrage « L'institution oratoire » les règles de l'art rhétorique, c'est-à-dire l'art du discours persuasif et convaincant. Maîtriser cet art, c'est optimiser vos chances d'attraper le bon mot et de trouver la bonne phrase percutante, ni trop tôt, ni trop tard. Le discours ne produit son effet que s'il est prononcé au bon moment. Avoir de l'à-propos, ce n'est donc pas uniquement une affaire de vocabulaire et de grammaire. L'à-propos relève surtout d'une certaine maîtrise du temps. C'est savoir saisir au vol le moment opportun, ce que les Grecs appelaient le kairos, pour répondre comme il faut à une remarque mesquine, par exemple. On choisira, selon les circonstances, la réplique ironique, la colère, l'indignation ou encore la douceur. Voici quelques règles, antiques et modernes, pour réussir ces punchlines. Première règle, la punchline doit être appropriée au contexte. Il ne suffit pas qu'une phrase soit bien construite pour être efficace. Son efficacité tient d'abord à son contexte. Deuxième règle, la punchline doit frapper les esprits. Elle doit surprendre et en même temps, elle doit être immédiatement comprise au moment même où elle est énoncée. Un mot d'esprit qui n'est compris qu'après coup n'est donc pas une punchline. Tel est le paradoxe. La subtilité de la punchline tient précisément à ce qu'elle ne doit pas paraître subtile, elle doit paraître évidente. Pour frapper les esprits, et c'est la troisième règle pour qu'une punchline soit efficace, elle doit exciter les passions humaines. Une phrase choc est une phrase qui fait réagir, qui suscite une vive réaction du corps. Si la punchline frappe les esprits, c'est parce qu'elle frappe d'abord le corps, par le rire ou la colère par exemple. Voici une punchline politique, un peu ancienne, mais remarquable par son efficacité.
Permettez-moi juste de vous dire que ce soir, nous sommes deux candidats. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand.
Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre.
Nous sommes en 1988. Le second tour de l'élection présidentielle oppose le président socialiste François Mitterrand, qui sollicite un second mandat, et le Premier ministre Jacques Chirac, chef de l'opposition à Mitterrand. Le 28 avril, un débat oppose les deux adversaires à la télévision. François Mitterrand appelle systématiquement Jacques Chirac « Monsieur le Premier ministre », pour rappeler la différence institutionnelle et presque hiérarchique entre les deux hommes. Jacques Chirac lui rappelle que lors de ce débat, il n'y a ni président, ni Premier ministre, mais deux candidats à égalité. Et François Mitterrand lui répond du tac au tac « Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. » Jacques Chirac, stupéfait par tant d'audace, ne réplique pas. La punchline ne vise pas d'abord la vérité. Elle cherche à obtenir l'approbation du public ou au moins à lui faire penser « Bien joué !»
Merci Nassim El-Khabli. J'ai d'ailleurs beaucoup de monde à remercier car figurez-vous que les auditeurs nous ont répondu pendant l'émission. Ils ont cherché eux aussi, à peine avais-je posé la question, l'origine de l'expression « jeter l'éponge ». Tout ce qui a été dit est juste et a été dit aussi ensuite dans l'émission par Laurent Lotti. Merci les auditeurs. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger avec à la technique Nicolas Bonnet. Elle a été préparée en particulier par Carla Michel et toute l'équipe d'Avec Philosophie. Anna Felpin, Nassim El-Khabli, Corinne Amar, Victoire Mellet et Axel Dubois. Vous êtes sur France Culture, vive la curiosité.